Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte sur choc.ca.
Bonsoir, bienvenue à Pop en Stock. Pop en Stock est un portail unique dans le monde francophone. Tout d'abord, une revue web à popenstock.ca. Ensuite, un podcast que vous écoutez où on s'interroge sur des objets de la culture populaire et toute l'influence que ça a dans nos vies. Et finalement, une collection aux éditions de ta mère. Ce soir, nous allons parler de James Bond. Et si je vous dis fille, martini et fusil, je pense qu'on pense à James Bond ici. Je m'appelle Hélène Lorrain. C'est vraiment un plaisir d'accueillir ce soir trois personnes qui sont très connaisseurs en question en termes de James Bond. Tout d'abord, Jean-Philippe Barry-Guerrard, un auteur, dramaturge et metteur en scène et voix extraordinaire.
Bonsoir Hélène.
Et quelle est ta chanson James Bond préférée?
Pour vrai, je pense que soit Diamonds Are Forever ou Skyfall. Peut-être que c'est parce que c'est récent. J'ose pas dire Skyfall parce que c'est très récent, mais moi j'ai vécu le syndrome de Stendhal quand j'ai vu le générique d'ouverture de Skyfall.
Oui,
J'étais soufflé.
OK, ouais. Parfait. J'ai réécouté hier Diamonds Are Forever, la chanson thème de Diamonds Are Forever.
C'est quand même extraordinaire.
Et j'ai été moi aussi soufflé.
Goldfinger, non?
Oh, ben Goldfinger, c'est bon aussi, peut-être que je ne l'ai pas assez usé pour qu'elle me rende dans la tête tant que ça. Ouais.
La question qui a été posée par Frédéric Julien, qui est l'auteur de James Bond encore. Et je dois avouer que c'est quand même un moment spécial parce que Frédéric est mon ancien prof de cégep en français. Ça fait plus de 15 ans, donc c'est vraiment un honneur pour moi de recevoir Frédéric ici à Choc, à Pop en Stock. Et Frédéric, ta chanson James Bond préférée?
Ah, ben c'est Goldfinger, je
te dis. La première très connue à tout le moins. Ouais. Et ouais, elle a mis l'empreinte.
Elle reste dans la tête, ouais.
Et finalement, Simon Laperrière, doctorant en études cinématographiques à l'Université de Montréal, co-directeur en fait du collectif Bleu Nuit, qui est sorti l'année dernière aux éditions Somme Toute.
Bonjour,
Simon,
Hélène.
Bonsoir. Quelle est ta chanson James Bond préférée?
Il me semble que je devrais dire Live and Let Die, mais dans les faits, c'est You Know My Name.
Ah, celle de Chris Cornell.
J'ai joué beaucoup de air guitar sur cette chanson.
Moi, je la trouve un peu étrange, cette chanson-là. Elle fait partie comme des tunes étranges.
Est-ce que c'est celle-là qui est extrêmement années 80 avec le gros synthétiseur ou je me trompe?
Non, en fait, elle mélange guitare et orchestre.
Et saxophone.
Oui, bien c'est tout le temps il y a tout le temps du brass.
Je l'ai pas dans l'oreille. Okay.
C'est pas grave. Donc on va commencer avec la chronique de Frédéric, étant donné qu'il a écrit un livre sur les mythes de James Bond et que vraiment là, ça se prête très très bien. Donc Frédéric, pourquoi James Bond encore?
Oh mon Dieu, en tout cas l'origine de mon analyse, c'était que c'était un cours que je donnais sur la mythologie et je m'interrogeais sur les mythes modernes, ou en tout cas ceux qu'on pourrait qualifier comme ça. Et le premier qui m'est venu en tête, évidemment, c'est James Bond. Du fait, entre autres, que c'est un mythe littéralement planétaire. Là, le seul, à part la Corée du Nord. Là, et puis, le premier test que je fais tout le temps, qui est le test de la réalité, c'est de demander à mes étudiants quels sont ceux qui ont vu un James Bond. Généralement, 85%, 90% lèvent la main. Mais ceux qui ne lèvent pas la main savent qui il est, reconnaissent la silhouette, reconnaissent le smoking, le pistolet levé, etc. Oui. Bon, puis même pas le... Puis bon, c'est sans parler du matricule. Alors, on peut littéralement parler, donc, non pas des mythes. Ben, remarque, ton erreur, si on peut dire ça comme ça, est bonne, parce que derrière le mythe, il y a des mythes.
Oui, hein?
Donc, il est rongé par les mythes, même. On pourrait dire ça comme ça. Mais donc, on s'entend, là, pour être, je sais pas si, pour nos auditeurs, là, qui seraient très, très férus de mythologie, on parle bien du mythe au sens de Barthes ou au sens... j'aime bien la définition de Tournier. Là. Un mythe, c'est une histoire que tout le monde connaît déjà.
J'aime bien parler de mythe en termes d'imaginaire. Donc, tout l'imaginaire relié à... Lorsque c'est un personnage.
Ben, c'est ça. Alors, ce qui fait justement, ce qui je dirais, parce qu'il nourrit le mythe dans puis c'est pas, je suis pas en stock que je vais apprendre quoi que ce soit là-dessus, mais donc c'est la médiatisation. On s'entend qu'on est vraiment dans, quand on pense que le premier James Bond littéraire, c'est 53, le premier James Bond cinématographique, c'est 62. En 65, si mes souvenirs sont bons, il y a déjà une première parodie.
Ah oui, mais donc, Casino Royale, hein, je crois.
Donc avec Casino Royale. Alors, Casino Royale, qui est une, dans laquelle d'ailleurs James Bond est joué par 6 acteurs différents, dont même Ursula Andress. Donc on est vraiment dans l'autoréférence constante.
Oui, oui, oui.
Puis même dans les films eux-mêmes, on est dans l'autoréférence. Alors déjà là, et c'est un... Oui.
Alors que curieusement, par la suite... alors qu'on est dans la mode des canons transmédiatiques, le meilleur exemple, c'est celui que, sur lequel est revenu Henry Jenkins, The Matrix. Alors, The Matrix qui a explosé de la salle pour aller vers le jeu vidéo, la bande dessinée, pour devenir une sorte d'immense objet disponible sur diverses plateformes, un récit disponible sur diverses plateformes qui pouvait être compris pleinement si on était, si on lisait tout. C'est pas le cas de James Bond. Dans les dernières années, c'est quand même étonnant que, mis à part les adaptations en jeux vidéo, on parlait avant l'enregistrement du célèbre GoldenEye sur Nintendo 64.
Qui a été, moi, mon premier rapport avec James Bond. James Bond m'a accroché via GoldenEye au Nintendo 64.
Et qui est couramment répertorié comme un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps.
Oui, c'est vrai. Et le seul James Bond réussi en jeu vidéo, parce que la plupart des autres jeux vidéo ont été accueillis de façon mitigée par la critique, quand même.
Oui, exactement. Ben, je pense que c'était The World Is Not Enough qui est plutôt raté, très décevant. Il y a eu une série animée James Bond Jr. qui a eu droit à une adaptation en jeu vidéo. Donc là, on a un début de transmédia, mais là, à savoir qu'est-ce que c'est cet objet-là qui est James Bond Jr.
En même temps, bon, il y a 17 ans de bande dessinée dans les journaux britanniques. Il y a quand même, bon, les films qui ont marché le plus, là. Même Moonraker a battu Star Wars donc au box-office. Mais je parle bien à des trentenaires donc qui sont dans cette culture-là, mais faut pas oublier que avant ça, donc il y a toute une culture cinématographique qui est indéniable. Quand on pense juste à Bondomania, là, c'est vraiment clairement ça, du temps justement de la Beatlemania.
Oui, oui.
On parle donc de salles de cinéma, par exemple, à New York, qui étaient obligées de fonctionner 24 heures sur 24 pour Thunderball, pour réussir à endiguer le flou de
Thunderball, c'est
de
comme
spectateurs.
Le troisième film, je pense.
C'est quatrième.
C'est ça, c'est quand même au début de la série.
Absolument.
Là.
Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis, puis c'est vrai que, le placement de produit qui a toujours été...
Oui.
C'est pas eux qui l'ont inventé, là, mais il reste quand même qui a été extrêmement savamment orchestré du fait que c'est un consommateur de toutes sortes d'objets de luxe et on pouvait, à ce moment-là, en pleine société des loisirs, se permettre comme spectateur, de se payer, c'est une sorte de communion finalement, des parfums James Bond, accessoires,
des montres
surtout. Ben, là, il fallait quand même s'y payer pour vrai, l'histoire, mais bon. Toute cette idée-là qui tourne autour de la médiatisation.
J'ai l'impression qu'une des choses aussi qui font que James Bond est devenu un mythe, c'est que la question de la qualité du film est rendue dissociée du produit, au sens où c'est tellement devenu un genre en soi qu'un mauvais James Bond n'affecte pas la réputation de la franchise en soi. Au pire, c'est plate, on va avoir hâte au prochain réalisateur ou au pire au prochain acteur. À la fin, Pierce Brosnan, je pense que tout le monde avait hâte de le sortir de là, coup de pied dans le derrière. mais c'est-à-dire que c'est la franchise va être capable, j'ai l'impression, de traverser les années.
Ben, c'est clair.
Tandis que j'ai encore l'impression, par exemple, qu'un mauvais Star Wars pourrait tuer la franchise. The Force Awakens n'est pas bon, ça se pourrait que ça désintéresse les gens.
Du fait, que ce soit comme Antonio Dominguez Leva disait très bien, c'est comme un reboot. Hein? Donc, c'est le fait qu'on change d'acteur puis qu'à chaque fois, ça fonctionne quand même. C'est-à-dire que James Bond survit donc aux acteurs, ce que Rambo pourrait pas faire ou ce que Die Hard pourrait pas faire. Donc, c'est déjà effectivement une preuve de santé, on pourrait dire comme ça. Il bande encore, effectivement. mais il y a eu, ça n'a pas empêché des dangers, là. Pierce Brosnan, le danger, c'était, il y avait tellement d'effets spéciaux comme en année, on sentait que ça allait devenir absurde. Roger Moore, c'était tellement devenu ironique parce que lui-même n'était pas capable physiquement même d'assumer son rôle que c'était en train de justement mettre en danger. Autre danger qu'on aurait pu connaître, c'est quand le mur de Berlin s'est écroulé et s'est effondré, toute la question, cette tension-là avec les Russes, bien qu'on s'assurait toujours de jamais trop insulter la Russie parce que, évidemment, c'est un client potentiel. Donc, tout ça, c'est un modèle d'affaires en or, là.
Oui, parce que la première, vraiment, les les premiers films, les premiers livres aussi, sont tellement ancrés dans la guerre froide. On peut...
Les livres beaucoup plus que
oui,
les films.
On ne peut pas comprendre vraiment, véritablement, James Bond sans être au courant puis vraiment s'intéresser au contexte.
Oui, mais la grande intelligence, puis là, je pense que dans Spectre, c'est encore... ils ont réussi ça. C'est de garder toujours cette espèce de fantasme, puis je pourrais en parler aussi, c'est mon cinquième point, l'objet du fantasme. À la fois, James Bond comme objet de fantasme, hein, Broccoli disait, le producteur disait, c'est l'homme avec... on voudrait James Bond, les hommes voudraient James Bond et les femmes voudraient évidemment... être dans ses bras,
oui.
On est dans ce double fantasme-là. Et évidemment, le fantasme par excellence, c'est le complot international qui est nourri, bien sûr, par Internet, etc. Donc, on garde toujours cette mince ligne, du complot qui est toujours possible, puis évidemment, de Spectre, justement, qui est tentaculaire, etc. Puis on parle jamais ou presque jamais des affaires. On n'a jamais même aucune allusion au 11 septembre. On touche à peine à la question, on touche même pas, en fait, à la question du terrorisme.
Ouais, puis je trouve aussi que une chose qui est assez habile dans la plupart des James Bond aussi, c'est que c'est rarement une guerre contre un État. Donc, ça réussit à
c'est toujours individuel.
À ne pas heurter les sensibilités, j'imagine. Commercialement, en tout cas, c'est
très occulte et c'est effectivement des individus qui contrôlent.
Des électrons libres.
Et quand on parle de fantasme ou de peur, c'est à la fois des hommes d'affaires, mais en même temps, c'est des criminels. Donc, on est dans tout ce que le bon peuple craint, là. Alors ça, c'est donc la médiatisation, c'est clair. Un faisceau d'archétypes, hein, il y a toute une couche derrière le personnage d'archétypes, évidemment, à commencer par l'espion, là, qui est quand même un vieux personnage, là, jusque dans la littérature chinoise, là, et japonaise. Le patriote, évidemment, on s'entend que la Grande-Bretagne se donne du crédit, là, bien qu'étant un empire en déliquescence, là. L'aventurier, évidemment, ça va jusqu'à...
Oui.
Créer un modèle d'aventurier ou de guerrier là, qui fait que Jason Bourne, hein, notez la sonorité, ou Jack Bauer sont finalement les fils de James Bond.
C'est vrai.
Chevalier, on a une sorte de chevalier qui est toujours en duel. Et puis dans Skyfall, justement, la grande qualité de Skyfall, c'est qu'on joue sur l'idée du dragon, hein, le chevalier qui se bat contre le dragon, qui va même dans le ventre du dragon. Le casino s'appelle le Floating Dragon, etc.
Oui, puis il y a aussi la question de l'honneur qui semble être très présente, qui est soit respectée ou brisée, mais il y a toujours une forme d'honneur qui est très présente comme enjeu, j'ai l'impression, dans les intrigues. Oui,
même s'il n'y a jamais tellement de pitié pour ses adversaires, il reste quand même qu'une certaine forme de respect quand même. Bon, mais en même temps, là, les méchants sont souvent ridicules. Ça, on s'entend. Mais là où, justement, je trouve que les derniers sont plus subtils, c'est que, par exemple, Silva, là, qui est interprété par, déjà d'avoir réussi à avoir Bardem comme méchant, c'est extraordinaire. et qui, au lieu de torturer, parce que c'est quelque chose qui revient souvent, la torture, la passion du Christ, hein, là aussi, on a une sorte de
référence mythique,
là. Justement mythologique, c'est que ben là au lieu de le torturer, il le caresse. Là, on est vraiment dans quelque chose. Puis là aussi la force de James Bond, du mythe James Bond, c'est de réussir même à forcer ou briser le cliché, c'est-à-dire même de faire en sorte des allusions au fait qu'il aurait pu avoir des aventures homosexuelles, ça aurait été impensable du temps de Sean Connery.
Moi, j'avais lu que dans Quantum of Solace, il y a cette scène où il sort de l'eau sur la plage.
Ça, c'est dans Casino Royale.
Dans Casino Royale, pardon. Ouais. Où il sort de la plage, qui était une scène qui avait été ajoutée suite à une étude de marché. Simplement pour plaire à la clientèle homosexuelle.
Il est devenu
féminine,
de toute façon. Mais là, déjà, on voit aussi l'évolution au niveau physique aussi. On s'entend que Sean Connery était un homme viril, mais absolument pas un homme en muscles, puis aussi entraîné que ça. Alors, donc, évidemment, on voit... Ben, en fait, là, quand on parlait de clin d'œil tantôt, Ursula Andress qui sort de l'eau, paraît-il qu'elle était une révolution à cette époque-là, déjà de voir une femme en bikini, les cheveux mouillés, tout ça, c'est des trucs qu'on n'arrive pas à réaliser aujourd'hui comme étant aussi choquant pour l'époque. Et le fait que 40 ans plus tard, on fait sortir Halle Berry de l'eau, justement, avec son poignard aussi, avec puis avec toute une autre, évidemment, une autre stature, une stature même d'héroïne, qui est presque... sur l'affiche, c'est intéressant de voir les affiches aussi, voir qu'ils sont côte à côte.
Elle avait eu son Oscar.
Est-ce qu'elle a eu un Oscar?
Je crois qu'elle était... elle était oscarisée quand elle fait sa sortie.
C'est la première James Bond girl oscarisée.
OK.
Puis à l'époque même, on parlait... Bon, ça a complètement floppé, mais on parlait de faire une série avec oui, ce personnage-là. Absolument.
Avec Jinx, c'est ça.
Jinx tellement qu'elle
parallèle.
Était...
Parallèle, donc une sorte de James Bond girl, ben John James Bond féminine,
oui,
justement.
Tellement
donc,
elle était charismatique.
Et là aussi, autre je dirais, force de la franchise, c'est de réussir à avoir fait en sorte, par exemple, qu'on ait une M femme, avoir fait en sorte qu'on ait justement... plus d'Amazon, plus de justement d'alter ego, ben alter ego féminine, c'est déjà aussi une force de cette franchise là.
Oui, puis la plasticité de la franchise est quelque chose qui assure d'après moi sa pérennité parce que justement le fait de pouvoir faire évoluer ça et l'adapter au goût du jour, ça peut plaire à des gens qui critiqueraient son caractère poussiéreux parce que c'est quand même si on regarde les vieux James Bond, c'est quand même extrêmement machiste quoi, on pourrait dire ça aussi de Spectre comparé à Skyfall, je trouve qu'on a fait des petits pas derrière, mais je pense que cette plasticité là aussi est une caractéristique qui permet à la franchise de vivre aussi longtemps.
Et M, d'ailleurs, dans GoldenEye, le premier, elle le traite de dinosaure misogyne et de... Comment elle disait ça? En tout cas, tu sais, on joue vraiment sur cette idée-là.
Mais je pense que c'est l'idée, le monde change, mais James Bond, pas tant
exactement.
Que ça.
Exactement, voilà. Ben, c'est ça, hein? c'est cette idée-là. D'ailleurs, dans Skyfall, t'en parleras peut-être tout à l'heure, au niveau technologique, donc Q... est un jeune geek. Hein, donc, déjà, je ne veux pas te voler des punches, mais donc Q qui est un jeune geek et qui lui donne finalement le seul gadget qui est finalement important pour James Bond, c'est-à-dire son arme, hein, qui d'ailleurs qui ne peut reconnaître que ses empreintes à lui. C'est vraiment boys with toys, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que on t'ordonne, puis t'es la bonne vieille technique, puis c'est le bon vieux temps qui revient. Hein.
Ouais. D'où une convention des films de James Bond, qui est la scène où Q, peu importe quel acteur, lui dit « Bon, pour ce film-là, tes gadgets seront celui-ci. » Et dans Spectre, cette scène-là est démolie avec tout ce que t'auras, c'est cette montre.
Ah oui.
Et tu vois, ces autres gadgets-là, ben, ils sont pas pour toi.
Ah oui.
Je pense que la voiture est pour 009. Oui, c'est pour 009. Oui. Qui est une scène très drôle, l'anticonvention qui est inclus dans le film. Ça m'a fait beaucoup rire.
Oui. Puis les allusions sont très présentes. Je dirais, dans Skyfall, quand le vieux majordome du château lui remet l'arme de son père, on fait des clins d'œil à Ian Fleming, qui a jamais caché le fait que derrière l'arme, il y avait évidemment le phallus. Il y avait évidemment toute cette idée. Donc, alors, c'est le père qui te remet finalement le pouvoir. Et puis, bon, c'est avec ça. Puis finalement, le château va finir par brûler. Donc, on brûle aussi l'origine. On refait justement table rase. On va rechercher l'Austin, la vieille Martin, voiture, l'Austin Martin. Oui. Et avec justement la mère de substitut qui est... on est toujours là-dedans constamment. C'est ça qui fait que... Et tu disais justement, c'est intéressant, la question, donc, ce qui fait encore une fois la force du mythe et puis la richesse du mythe, c'est un objet de rituel. Là. On est vraiment un James Bond est toujours fabriqué, est toujours monté de la même façon. Le pré-générique, le gun barrel, la musique, évidemment... Oui. Et puis bon, les gimmicks, là, donc les
grandes
fétiches,
grandes étapes narratives là, qui constituent absolument un rituel. Oui.
Est-ce qu'il y a déjà eu des James Bond qui ont dévié de cette structure?
Pas à ma connaissance, non. Au contraire, on conserve cette idée-là. Là, en fait, le pré-générique est toujours fait comme un film presque autonome finalement. Après le générique, finalement, c'est le film qui commence pour vrai. Hein, on s'entend là-dessus. Et donc, je pense que ça fait partie du rite. Encore une fois, on communie à quelque chose qu'on connaît. Et puis bon, je l'avais détaillé un petit peu, là, je réinvente rien. Toujours une sorte de catabase, une sorte de descente aux enfers. La menace apocalyptique, évidemment, on la retrouve toujours d'une façon ou d'une autre, en mettant les choses au goût du jour, évidemment, là, jusqu'à Quantum of Solace qui parle d'écologie. Le rapt de la femme du méchant, évidemment, qui est toujours importante. L'espèce de passion christique dont je parlais tantôt, là, la scène de torture où... Puis là, je parlais aussi le duel, évidemment, le duel qui est presque modernisé du fait que, justement, ça peut se faire dans une salle de casino. La destruction finale, qui est purificatrice, évidemment, le châtiment du monstre, et puis le repos du guerrier. Là, de moins en moins, parce que vous avez remarqué, on diminue le nombre de partenaires. Hein, l'ère du sida est passée par là, j'imagine. Donc, et puis forcément, à la fin, c'est pas nécessairement la récompense. Là.
Mais Spectre, il fait une belle place dans ce cas-ci, quand même.
Ouais, hein?
Il y a beaucoup d'enfance qui est mise sur la récompense, quand même.
Ben, oui. c'est, il reste quand même que le modèle viril a changé aussi. Je veux dire, on est face à une virilité beaucoup plus torturée.
Oui,
beaucoup
oui,
plus,
c'est ça qui caractérise
qui ressemble beaucoup plus
le James
à ce
Bond de Daniel Craig, là, c'est ça, l'espèce oui. de deuil, puis de lourdeur, puis de, ouais, esprit torturé, là, absolument. Oui.
Ça suit beaucoup ce que Nolan a fait avec Batman.
Ah,
ouais, fait, hein.
Le Batman, tu sais, on est très, très loin du Batman avec Adam West. et ça serait intéressant, je pense que ça pourrait être intéressant de faire une sorte de comparaison de la psychologie de Sean Connery et de celle de Daniel Craig, où là, on est à deux.
Dans deux mondes.
Complètement.
Mais mm-hmm. ben, aussi, après ça, c'est sûr que c'est un peu fourre-tout de dire ça, mais il y a quand même beaucoup qui a été dit sur la psychologie de la figure du super-héros en général dans l'Amérique post 11 septembre où les super-héros n'existent plus ou s'ils existent, ils doivent exister nécessairement avec un bagage énorme et beaucoup de faiblesses et de plusieurs talons d'Achille, en fait. Puis je pense que justement, le James Bond de Daniel Craig en est un bon exemple. Puis je pense que c'est très bien expliqué dans Skyfall, justement, parce que Silva est une sorte de double négatif de Bond. Il reçoit le même traitement et lui, au lieu de pardonner M, décide de se venger de M. Donc, je trouve que Skyfall est pour moi excellent parce que tout ce qui survient avant dans les autres films, même si c'est pas des événements qui sont canoniques, vont peser sur le personnage et ce bagage-là va enrichir, je trouve, la psychologie dans Skyfall.
Mais compte tenu de ça, c'est très difficile de pas voir le spectre du terrorisme là-dedans, puisqu'on on le sait, les Afghans ont été entraînés par les Américains et suite à ça, il y a eu le 11 septembre. C'est sensiblement la même chose ici. On a un agent qui a eu le même entraînement que James Bond, mais a décidé de se tourner vers le mal avec un grand M.
J'avoue que c'est une très bonne lecture, j'avais même pas vu moi-même. Bon,
ben, dans Spectre, justement, il y a c'est quoi? C'est Special Executor, Counter-Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion.
Bravo, je l'avais même pas retenu. Ouais. J'ai vu le film avant hier.
Ça, c'est le fun quand tu déposes ça comme nom de compagnie.
Ouais, c'est ça. Alors, ben peut-être que aussi Simon est très au courant des questions de théories de fans. Est-ce que tu t'es intéressé à qu'est-ce que les fans ont à dire de Spectre ou du mythe James Bond?
Ben par rapport à Spectre actuellement, c'est sûr que les fans actuellement, les textes commencent à apparaître sporadiquement sur Internet. Mm-hmm. Moi, j'ai remarqué en étudiant les textes produits par les fans que ceux qui sont écrits quelques jours suite à la sortie d'un film, souvent c'est les moins intéressants parce que là c'est des longs trop frais, c'est des longs pamphlets colériques et là souvent ça donne des résultats qui sont que je conçois plutôt comme les germes de réflexion de fans ou de fanatiques à venir. Donc c'est plus intéressant des fois d'attendre un mois avant de malgré que pour Star Wars les bandes annonces actuellement il y a des trucs assez intéressants qui sortent. Petite parenthèse. Les fan theories, pour les auditeurs qui savent pas exactement qu'est-ce que c'est, ce sont des théories faites par des amateurs, mais qui ne font pas de ce qu'on appellerait une économie de l'interprétation. Dans la mesure où, quand on regarde un film, on est d'accord, James Bond n'est pas secrètement une femme. Il y a quelque chose qui nous empêche d'arriver à cette conclusion-là. Or, le fan theorist ne va pas se donner cette contrainte-là. Ça donne souvent des résultats fascinants, comme le documentaire Room 237 sur Shining, où on donne la parole à des fanatiques du film de Kubrick, dont l'un voit par exemple la confession de Kubrick ayant filmé l'alunissage d'Apollo 12, c'est le film avec Tom Hanks.
C'est
13, oui.
Mais Apollo 11.
Apollo 12, je sais plus ce que c'est. Désolé. Mes connaissances en astronomie sont ce qu'elles sont. Évidemment, un personnage comme James Bond ne pouvait pas échapper aux théories des fans, dont celle qui est la plus courante, et qui est intéressante quand on se penche justement sur la médiatisation du personnage, c'est comment expliquer le changement d'acteur. C'est qu'en fait, James Bond n'est jamais le même agent. Donc,
Des années... Donc, 007 n'est jamais...
Même James Bond.
James
Bond est un nom d'agent secret. Ce ne serait pas le vrai nom du personnage qui apparaît à l'écran. Ce serait une sorte de nom de plume ou un nom de fusil. Et donc, ça expliquerait pourquoi le personnage change de visage et en quelque sorte de psychologie d'un film à un autre. Et ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que ces mêmes fans qui vont se plaindre que l'idée d'un James Bond à la peau noire est tout à fait inacceptable, c'est curieux parce que à bien des égards, ça viendra à leur donner raison.
Ah oui.
Et je trouve que c'est une théorie qui démontre bien le travail que les fans peuvent faire pour en quelque sorte trouver la linéarité, trouver le entre chaque film, alors que ça demeure quand même une série qui, contrairement justement à Star Wars, contrairement même au Friday the 13th, les Friday the 13th se suivent un à la suite de l'autre de façon très
linéaire.
C'est pas vraiment le cas de James Bond. C'est fascinant de voir comment des fanatiques vont se donner comme mission. Non, il y a forcément un lien. Alors trouvons-le. Mm-hmm. Alors qu'est-ce qui est inexplicable? Trouvons-y une explication.
Oui, ben donc une des théories, c'est que James Bond est un nom de fusil. Puis est-ce qu'il y a d'autres théories de cet égard-là?
Il y a aussi celle qui est peut-être un peu moins intéressante parce qu'il n'y a pas tout à fait de il n'y a pas beaucoup de réflexion autour de ça de la part des fans. C'est celle que, dans le fond, James Bond est un agent double qui travaille pour les forces du mal. Donc, ce serait un terroriste qui évoluerait au sein. Ouais, c'est assez étrange comme ça.
C'est une lecture qui demande de réinterpréter beaucoup d'éléments de la franchise quand même.
Ben, en fait, ça expliquerait pourquoi James Bond n'hésite jamais à détruire des édifices, faire des choses que dans le fond à commettre des actions qui entraîneraient la mort de plusieurs innocents. D'ailleurs, l'intro de Spectre avant le générique d'ouverture, ben il s'en sort plutôt bien pour quelqu'un qui a démoli un édifice. Il n'hésite pas une seconde.
Un pâté de maison complet.
C'est un bloc.
Ce qui m'étonne, c'est que dans plein d'autres films catastrophes, on fait exploser tout autant d'immeubles, puis on n'a pas les mêmes théories autour de ça.
Mais je pense que dans ce cas-là, c'est que James Bond occupe tellement une place importante dans la culture contemporaine, on va se plaire à essayer de trouver la bébite. De trouver qu'est-ce qui fonctionne pas. Donc, serait-ce un agent double, d'autant plus que ça fait sens dans l'univers de James Bond qui est truffé d'agents doubles. Est-ce que le héros, depuis le départ, ne serait-il pas...
À la solde de
Spectre.
Et en même temps, le ressort, un des ressorts, en tout cas, des films, c'est le fait que quand il séduit, puis quand surtout il couche avec des filles, on sait jamais si c'est un ennemi ou une complice. Il y a pas beaucoup d'amis, en fait, James Bond, à part Felix Leiter, là, qui est l'agent de CIA, mais généralement, même les agents qu'il rencontre, il sait jamais. C'est drôle parce que qu'on voit du complot à l'intérieur même d'un film qui est toujours en train de jouer là-dessus, ça m'apparaît être presque de la schizophrénie.
On est dans la surinterprétation totale, et c'est ça l'intérêt que...
Pas de schizophrénie, mais de la paranoïa.
Aussi, bien sûr, on est dans la théorie du complot. Et peut-être aussi que ce que ça témoigne, c'est un élément de la série que j'ai toujours trouvé très particulier, c'est que quelque chose qui pourrait te déranger chez James Bond, c'est que c'est une figure sans passé. On s'est mis... Il y a Skyfall qui a commencé à laisser les indices de oui, James Bond a eu un papa et une maman. Il y a eu...
Un peu plus dans les romans, mais...
Oui, OK, ça, c'est...
Mais là, on a son origine un peu plus clairement, là, écossaise, entre autres, qui a déjà été adaptée par Fleming quand il a... Lui-même a été complètement subjugué par la performance de Sean Connery, a décidé donc de changer... L'origine de son personnage, qui a toujours été appelé l'anglais.
Ça, c'est vraiment une œuvre transmédiatique.
Oui, absolument. Et il combat pour l'Angleterre, c'est jamais pour la Grande-Bretagne.
Oui, c'est vrai.
Donc, cette idée-là, là, de très, très, très tôt, là, dès 62, justement, il a modifié les origines de son personnage. Mais c'est vrai que Skyfall joue là-dessus.
Oui, c'est ça, parce qu'autrement, on sait si peu. Donc, Skyfall va en quelque sorte combler un vide tout en laissant une certaine... En gardant une certaine retenue par rapport à ça. On n'en dit pas trop. On n'est pas à savoir... On n'a pas eu droit à un Young Indiana Jones.
Non, c'est ça. Il y a eu un Young Bond. Oui, justement, il y en a eu un. Est-ce que c'était télévisé ou c'était cinématographique? Je ne me rappelle pas, mais il y a eu ça.
Oui.
Junior...
Oui. Ouais. Oh, que ça remonte à ma mémoire. Oui, ça me dit quelque chose. Mais c'est pas le fils de James Bond, le personnage.
Neveu, je pense.
Le neveu, c'est ça. Ouais. C'est ça. Okay.
Des associations familiales, carrément. Là.
Mais tout ça pour dire que visiblement, les fans n'ont pas tout à fait lu Fleming, parce que si je peux me permettre une toute petite citation là, concernant justement le nom de Bond, Fleming aurait dit « Je voulais le nom le plus simple, le plus ennuyeux, le plus commun possible. Des choses exotiques lui arriveraient, mais il serait une figure neutre. Un instrument contondant anonyme, manié par un ministère. Wow. » Donc déjà, je trouve que Fleming met déjà la table en disant, écoutez, là, je cherchais pas, là, moi, je veux en faire au contraire. En fait, il y a même des gens, ben, je pense qu'Antonio en parle, puis des chercheurs qui étudient ça, là, entre autres Françoise H. Bissette, là, sur le fait que, en réalité, qu'est-ce qui est vraiment fort chez James Bond? Est-ce que c'est lui qui serait comme finalement presque un noyau vide, mm-hmm. ou c'est le contexte? Il y a des affiches qui disaient... quelque chose comme meet his incredible women, his incredible enemies, his incredible adventures. C'est pas lui qui est important, c'est ce qui l'entoure.
Okay, oui.
Alors c'est intéressant parce que peut-être c'est un noyau vide d'une certaine façon ou une sorte de coquille un peu creuse. On peut la remplir à sa guise, là, et c'est peut-être là que les fans s'amusent.
Oui, absolument. Et d'autant plus que même, par rapport au passé, même que d'un film à l'autre, je pense que Spectre, c'est une des premières fois où on a vraiment la suite d'un épisode antérieur, alors qu'auparavant, les clins d'œil d'un film à l'autre étaient assez rares. On parlait de Jaws tantôt, qui a été un méchant, qui ensuite est devenu un peu un ami dans Moonwalker. Mais c'était plus du fan service. Je pensais à Skyfall, le clin d'œil au stylo explosif de GoldenEye. C'est rare ce type de référence là dans la série quand même.
Je pense qu'il y en a beaucoup.
Mais c'est pas suffisamment pour sortir.
Non. C'est des clins d'œil. Qui sont constamment autoréférentiels, mais pas nécessairement, comme tu dis, sur une suite. Absolument. Mais la preuve, c'est que quand on a introduit Craig, c'était pour Casino Royale, qui se trouve être le premier des romans, pour lequel on a eu les droits finalement, etc. Bon, tu sais, c'est un peu compliqué, mais c'est comme si on disait, OK, on lui donne sa chance, puis on commence par le premier.
Oui, mais Spectre est vraiment une suite de Donjon Blanc, de Skyfall.
Ben, je sais pas si je dirais que c'est une suite, mais c'est certainement la somme. Moi, j'ai surtout l'impression que c'est un tour de piste de toute la période Daniel Craig.
La période de Sean Connery, parce qu'on retrouve Blofeld, qu'on n'avait pas retrouvé depuis Sean Connery. En fait, on n'a pas Blofeld tout avec Roger Moore.
Mm-hmm. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est... Puis encore là, je crois que c'est encore cohérent avec la nouvelle stratégie scénaristique, si on veut, de donner un bagage à Bond et de lui faire... il y a cette scène dans la poursuite finale où il traverse les bureaux détruits de MI6 et il voit tous les portraits des gens qui sont morts, amis comme ennemis. Mm-hmm. Et il y a encore le poids de ces morts-là sur la conscience. Donc, je sais pas ce que t'en penses, Simon. Moi, je préfère voir Spectre comme une somme plutôt qu'une suite.
Ouais, ça a du sens. Ouais.
Mais Simon, je me demandais, tu parlais des théories de fans. Est-ce que certaines de ces théories-là qui ont été commentées par les créateurs?
Pas à ma connaissance. Ça se fait de plus en plus maintenant avec Internet, comme un exemple assez hallucinant. Le premier épisode de la saison 3 de Sherlock, qui est délicieux, alors que tous les fans de Sherlock se demandent comment est-ce qu'il aurait pu survivre à ce qui lui est arrivé
à la fin de la saison 2, finalement, on le voit tomber d'un édifice. Il est mort, on le voit, comme il y a du sang là, qui sort de sa tête.
Mais l'est-il? Non, évidemment!
C'est ça, puis là, il y a tellement un moment, parce que la BBC ayant des moyens de production différents ici, il y a tellement des années, finalement, là, entre la saison 2 et la saison 3. Pendant ce temps-là, les fans sur Internet, capote ben raide, donc ils écrivent beaucoup, beaucoup d'histoires possibles. Comment Sherlock Holmes a pu survivre à ça? Et dans le premier épisode de la saison 3, ils font référence à quelques-unes de ces histoires qui mettent en scène, qui filment et qui...
Donc, juste à ma connaissance, il n'y a pas eu ça avec les James Bond. Il n'y a pas eu de clin d'œil de... En fait, c'est même assez clair avec Skyfall que Daniel Craig est le... Il n'y a qu'un seul et même James Bond. Mm-hmm. Je pense que ce qui solidise... ce qui va solidifier ça, c'est l'apparition de la voiture de Sean Connery, donc il va chercher et qui va sauver, qui est le seul moyen de transport adéquat pour James Bond. Est-ce que ça va se faire éventuellement dans des films futurs? Tout est possible puisqu'on sait maintenant à quel point les grands studios sont à l'écoute. Non, plus seulement des admirateurs qui vont justement comprendre les références à des films antérieurs dans une série comme James Bond, mais littéralement aux fans geeks. Ce serait pas étonnant que ça se fasse, probablement de façon moins soulignée que dans Sherlock.
Et même aux détracteurs aussi.
Oui, parce qu'il y a quand même une catégorie de fans qui sont fortement opposés à la présence de Daniel Craig. Il y a même un site que tu as probablement consulté qui s'appelle danielcraigisnotbond.com.
Mais en même temps, c'est ce que j'aime aussi de la franchise, c'est que chaque personne a son préféré et son némésis, si on veut. Moi j'ai découvert James Bond avec Pierce Brosnan. Quand j'ai découvert les autres, j'ai fait, mais voyons donc, Pierce Brosnan a pu incarner ce personnage-là. Il a le charisme d'une brouette. Mais bon, après ça, c'est revient à une question de goût personnel. Ben, c'est intéressant parce que ça revient un peu à c'est un peu ce que Lucas avait fait avec Jar Jar Binks dans dans l'épisode 1 j'ai écouté Jar Jar Binks épisode 1 sur le tard et moi je me suis attaché à Jar Jar Binks, puis après ça je voyais 2-3 puis finalement je me rends compte que les fans ont tellement été fâchés à ce moment-là que j'ai pas eu droit à mon Jar Jar Binks.
Mais oui. Lucas s'est quand même donné la peine dans épisode 2, on est très attentif, quand Jar Jar Binks apparaît pour une première fois à l'écran dans le film, il se retourne vers la caméra et fait un clin d'œil, comme une façon de dire « Je suis encore là, vous n'êtes pas débarrassé de moi. »
Ah, ça, j'étais pas au courant. Il faudrait que je réécoute.
Il y a un même clin d'œil, d'ailleurs, dans le premier remplaçant de Sean Connery, là, qui s'appelle George Lazenby, et qui se tourne vers la caméra. Il a carrément un regard caméra, et il dit « It never happened to the... »
The other guy.
Ouais.
Mais ça dure. Peut-être que t'en sais plus sur la réception critique du premier film. Je pense à Majesty's Secret Service. C'est le premier changement de James Bond. Ça aurait pu arrêter là. C'est absolument. Ça. Est-ce que la réception critique a été bonne? Est-ce que la réception du public a été bonne? Est-ce que c'était en...
Il me semble que ça n'a pas été du tout un échec, là. Il y a eu un petit temps
en 1969.
Oui, mais tout de suite après, finalement, Sean Connery a accepté de reprendre le rôle, là, Diamonds Are Forever. Et puis là, finalement, on a laissé Roger Moore arriver. Mais non, ça encore une fois, comme je disais tantôt, ils ont réussi à surfer assez bien sur une assez bonne vague, à part le 4 ans ou 5 ans, là, justement, après la chute du mur de Berlin, là, ça a toujours été relativement régulier, au point même ils se sont même permis d'attendre pour Spectre que Sam Mendes soit libre, alors qu'il faisait du Shakespeare sur scène, ce qui est quand même pas mal, encore une fois, courageux et intelligent de la part des... Et soit dit en passant, Christopher Nolan et... Et le prochain sur la liste.
Ah oui, oui.
Pressenti ou confirmé?
Pas confirmé parce qu'il ne confirme jamais. Là. Mais il était pressenti. Si Sam Mendes avait pas dit oui finalement, ça aurait probablement été Christopher Nolan. En tout cas, il laisse courir les rumeurs. Là, mais,
Je serais très heureux de voir un James Bond réalisé par Christopher Nolan.
Je pense qu'il s'amuserait pas mal. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une certaine forme de liberté parce que Christopher Nolan ne travaillerait pas nécessairement dans un cadre trop restreint. Puis Sam Mendes lui-même était très surpris d'avoir eu autant de liberté pour Skyfall.
Mais ça parle aussi beaucoup. Surtout les premières fois où les acteurs qui jouent James Bond ont pu réussir. Je pense que ça parle beaucoup aussi de l'équipe autour de James Bond.
Presque artisanal.
C'est ça, qui est tout le temps un peu la même. On reconnaît tout le temps les noms génériques. Ouais.
On dit même que le trompettiste qui a joué dans le premier James Bond, Dr. No, Derek quelque chose, Martin, je sais pas trop quoi, est décédé tout de suite après Skyfall. C'est lui qui avait fait la trompette dans toutes les musiques de films, de tous les films. Donc, on garde cette espèce d'aspect familial. Mm-hmm. D'ailleurs, la productrice la fille de Albert Broccoli, et son demi-frère, en fait. Donc, on est vraiment dans un travail de famille. Ce qui est assez sympathique, on s'entend que c'est des familles qui travaillent avec 350 millions de dollars. Là. Mais c'est des artisans, 350 millions de dollars. Et cet aspect-là, ça parle peut-être d'une certaine continuité, justement. Là.
Puis là, avec Jean-Philippe, on va parler de technologie, le rapport à la technologie.
Oui, moi, je me suis intéressé à ça d'abord parce que je pense que mon personnage préféré de la franchise, en dehors de James Bond lui-même, c'est Q. Et j'avais eu à réfléchir l'an dernier quand j'étais pour le dictionnaire des personnages à Plus on est fou, plus on lit. Mais j'avais la lettre Q. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire avec la lettre Q? Puis,
bonne question.
Fait, évidemment, Q, pourquoi pas? Puis... En fait, la thèse à laquelle je suis arrivé, qui peut être discutable avec toutes les autres théories de fans, c'est que Q, pour moi, est un baromètre de notre rapport à la technologie. Spectre vient un peu brouiller les cartes de ma thèse, disons. Mais c'est intéressant de voir, dans les années 60, premièrement, toutes ces inventions. James Bond a souvent préfiguré des inventions réelles qui vont arriver 10 ans, 20 ans plus tard. Parfois, je veux dire, il y avait un drone en araignée dans... je sais plus c'est lequel, mais un avec Sean Connery, ce genre d'araignée télécommandée. Donc, il y a eu plusieurs formes de drones, entre autres. Ça a pris du temps avant que ça arrive sur le marché, mais c'est des choses qui sont arrivées beaucoup. La voiture téléguidée dans, je pense, c'est Tomorrow Never Dies ou c'est dans GoldenEye. Les pneus qui se regonflent, tout ça. Le GPS qui est arrivé, ben ça existait déjà, mais c'était un outil qui était uniquement militaire, mais qui s'est démocratisé. Et à mesure que, bon, là, pour ça, il y a eu la passe épouvantable de The World Is Not Enough et l'auto invisible et bon, tout ça, je sais pas ce qui s'est passé.
J'aime la chanson de cette...
Je sais,
c'est un côté sympathique. C'est pour ça que tu as dit, ils ont arrêté ce moment-là parce que ça commençait à devenir... un peu ridicule.
C'est ça, ça a complètement dépassé. Puis, c'est comme si, justement, peut-être que ça nous paraissait ridicule parce que la technologie a fini par prendre tellement de place dans notre vie que j'ai l'impression qu'il y a un moment où, dans ce cas, les scénaristes, surtout à partir de Casino Royale, moi, ça me faisait beaucoup rire que James Bond ait un Sony Ericsson. Il y a un téléphone bien normal que n'importe qui peut s'acheter. Donc, c'est comme si... plutôt que d'inventer des nouvelles bébelles absolument extraordinaires, c'est juste de présenter à James Bond des objets de la vie de tous les jours et qui montrent à quel point la technologie, les pouvoirs de James Bond sont rendus accessibles au commun des mortels. Et ben justement, l'évolution du personnage de Q, pour moi, montre ça. Q qui a été, je le rappelle, joué surtout par Desmond Llewellyn, mais aussi par trois autres acteurs, à part, j'oublie, Ben Whishaw dans la gang, donc Jeffrey Baildon, Alec McCohen, John Cleese. Mais Desmond Llewellyn, il en a fait quand même une...
Monty Python.
Python.
Toute l'univers Monty Python qui vient.
C'est-à-dire comment on peut aller dans le ridicule aussi, c'est-à-dire que s'en moquer aussi, d'une certaine façon, là.
Oui, tout à fait.
En prenant cette terre-là.
Ouais, effectivement. Puis, en fait, Q est quand même toujours été un personnage un peu de comic relief qui présente les choses avec un sourire en coin.
Une sorte de Merlin, finalement. C'est une sorte de Merlin enchanteur. Il réenchantait le monde à travers ses gadgets. Et c'est l'objet magique qu'on donne au héros.
Oui, exact. Oui, tout à fait.
Mais le héros qui est toujours un peu dépassé aussi.
Merlin, ou en fait Gandalf, c'est vraiment un adjuvant du personnage principal.
Un adjuvant, une espèce de magique, c'est ça.
Oui, exactement. Puis c'est intéressant aussi parce que la menace, la plupart des antagonistes de James Bond sont une menace aussi à cause de leurs moyens technologiques. C'est rarement des gens qui ont la force du nombre. En fait, la plupart du temps, c'est, comme on disait tantôt, des électrons libres, des fous seuls dans leur laboratoire avec des moyens extraordinaires. Bon, ils vont avoir un laser pour détruire la Terre ou réchauffer l'atmosphère ou quoi d'autre encore.
Un sous-marin pour créer des manchettes. Ça, c'est pas mal quand même.
Oui, donc toutes ces choses-là sont... dans Skyfall, il y a une question de libérer des gaz dans toute la ville. Il me semble qu'il y a des... des gaz dans le métro. Bon, ben, on est plus dans les actes terroristes, disons. Mais, et donc, c'est toujours une opposition entre la technologie au service du bien et celle qui est au service du mal. Et surtout, j'ai l'impression, avec toutes les questions qu'on a eu à se poser les dernières années avec la surveillance, tout ça, Spectre arrive à point nommé avec en présentant les Nine Eyes, les États qui ont énormément de pouvoir de surveillance, comme des victimes d'une manipulation de quelqu'un qui leur vend de l'information finalement. Mais donc moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir Ben Whishaw apparaître parce que Q est absent de Casino Royale et Skyfall. Il fait juste se faire donner ses bébelles parce que bon, est-ce que c'est parce que les scénaristes trouvaient pas ça assez intéressant de ramener le personnage, ou est-ce que c'est parce qu'on se disait que c'était impossible d'accoter Desmond Llewellyn, qui finit d'ailleurs dans son dernier film en disant « Always have an escape plan ». Je trouve que ça, c'était une ligne extraordinaire. Et encore une fois, un clin d'œil avec ce personnage-là qui est très pince sans rire, qui annonce sa sortie de la franchise. Mais donc, Ben Whishaw qui apparaît dans Skyfall en disant « I can do more damage on a Saturday morning in my pajamas than you can in an entire year on the field. » Donc, je peux faire plus de dommages avec mon laptop en pyjama le samedi matin que tu peux le faire avec une année complète sur le terrain. Et ça résume beaucoup, je pense, notre position par rapport à la technologie. C'est-à-dire qu'on sait que dans les années 60, la technologie était encore, même si on était post-Deuxième Guerre mondiale, puis qu'on avait été un peu terrifié par la bombe nucléaire et tout ça, il y avait quand même une sorte d'espoir naïf en la technologie que, d'après moi, James Bond incarnait bien, c'est-à-dire que tout était possible si on avait la bonne bébelle, alors que maintenant... C'est plus tellement d'avoir la bonne bébelle, mais de savoir qui...
Le bon programme informatique, ça.
Le bon programme informatique, oui, exactement. C'est, on remet ça plutôt dans les mains du savoir que de se faire donner un objet, parce qu'au final... Puis d'ailleurs, Skyfall est intéressant parce que c'est le film probablement le moins technologique. Il y a le Walter PPK qui est activé par les empreintes digitales de Bond et l'émetteur GPS, c'est tout ce qui se fait donner par le Q interprété par Ben Whishaw et donc justement c'est cette utilisation intelligente de ces tout petits objets là qui va réussir à sauver Bond ce qui est intéressant aussi de Q, que j'ai remarqué, qui fait dans... Il y a un autre film, là, j'arrivais plus à le trouver, j'avais pas mes notes, mais dans Spectre, Q suit Bond dans sa rébellion, et je sais plus si c'est dans quel autre film où Bond se rébelle et Q le suit, mais c'est intéressant de... je l'avais, en tout cas, je vais le retrouver, mais c'est intéressant de voir que Q... même s'il travaille pour le service de MI6, tout ça, va suivre Bond dans ses pérégrinations et se rebeller avec lui si besoin est.
Ça m'en fait comme un ami aussi.
Oui, un genre de sidekick. C'est le plus proche qu'on va avoir d'un Robin pour Bond.
Et alors que ce qui est intéressant avec Skyfall et Spectre, c'est que là, on peut débattre des heures, est-ce que c'est le même James Bond d'un film à un autre? Alors là, à partir de Skyfall, on le sait, c'est clair, c'est un nouveau Q.
Ouais. Puis aussi, ce qui m'intéresse de...
Alors peut-être c'est la réponse des créateurs. ça pourrait être ça, mais à bien y réfléchir.
Oui, tout à fait.
Après avoir réfléchi justement pendant deux films.
Ouais. Puis une chose aussi qui unit très bien, mais moi je sais pas si c'était une faiblesse scénaristique, de la redondance, ou si c'était vraiment vers ça qu'on voulait orienter l'histoire, mais le service de MI6 s'est posé le même ultimatum deux fois de suite dans Skyfall et dans Spectre. On leur dit 00, le programme 00 est dépassé. Et ça, encore une fois, c'est la confrontation entre l'humain, c'est l'homme contre la machine, c'est l'humain et la machine. Est-ce qu'on est mieux d'avoir une grosse équipe d'informaticiens très, très habiles assis dans un laboratoire qui observe le monde et qui peut-être
qui surveille tout,
qui envoie un drone s'il faut, un missile par là? Ou est-ce qu'on a besoin de quelqu'un qui opère silencieusement sur le terrain?
Ça, je trouve que c'est la... Je pense que c'est un enjeu important, effectivement, dans les derniers opus. Mais dans les tout premiers, si vous regardez la relation que James Bond a avec Q, c'est toujours... premièrement, Q est toujours scandalisé par la façon même que James Bond a de traiter ses gadgets. Il dit « t'es toujours en train de détruire mes trucs ». Puis d'ailleurs, ça a mené avec la BMW, je ne sais pas si tu te rappelles, dans Pierce Brosnan, où justement, il a fait même revenir dans le centre de location, je pense que c'est Evis, je sais pas trop quoi, par la vitrine, en tout cas, peu importe. Puis c'est toujours, tu vas encore briser mes jouets, etc. Mais c'est toujours la tension entre le travail de terrain. Moi, James Bond, je peux me débrouiller avec mes mains, hein, presque mes mains nues, mais ultimement, je vais avoir besoin de tes gadgets. Et le fait qu'effectivement, on pourrait avoir, comme tu dis, là, plus besoin d'être humain, puis on pourrait tout faire par des drones ou par des machines, etc. Cette tension-là est toujours très présente, là. Et je pense qu'elle doit l'être dans la réalité aussi. Je veux dire, de plus en plus, on se demande si on peut faire la guerre par drone interposé ou par télécommandant des gadgets.
Mm-hmm. Oui, donc, nous le fait que...
Mais en même temps, on ne peut pas avoir d'aventure si on n'a pas de guerriers sur le terrain. Là. Ou alors, on commence à faire des films, justement, de robots. Là, c'est autre chose.
Mais ça parle bien du rapport à la technologie dont Jean-Philippe parle, justement. Donc, oui. Qu'il y a une espèce de co-constitution que James, les films de James Bond nous aident, nous orientent dans l'espèce de compréhension qu'on a de la technologie, puis comment ça peut... comment tous les jours on peut l'utiliser, mais aussi... puis à quel point... permet des choses, mais elle empêche aussi des choses et tout ça. Mm-hmm.
Oui, puis des fois aussi, en observant les plus récents, Je sais pas s'il y a aussi un certain regard, comme si c'était un boomer qui regarde l'apparition de la technologie et qui est peut-être dépassé par les événements. Je parle pas de James Bond, mais du regard de la thèse du film en général. C'est du regard des scénaristes, peut-être, je sais pas. Si on présente pas un James Bond qui est devant un monde dont la complexité technologique le dépasse...
Oh oui. Mais même la complexité politique aussi oui. semble dépasser un agent secret dont le, et c'est ça, Spectre, c'est ça l'un des enjeux, c'est que c'est plus arrêter qu'un seul méchant, c'est arrêter un réseau.
Mm-hmm. Oui.
Et un réseau, d'une part, pour des scénaristes, c'est merveilleux parce que ça permet plusieurs suites.
Oui, oui.
Mm-hmm, parce que comme on disait, l'idée de l'hydre de l'herbe, de la pieuvre, c'est coupes une tentacule, il y en a d'autres où l'hydre, ça va repousser. Mais oui, c'est intéressant. James Bond dépassé par le monde contemporain.
Ouais, puis j'ai l'impression justement que par rapport au premier, ben encore là, c'est une particularité des films de Daniel Craig, mais qu'on n'a jamais l'impression que James Bond a tant d'avance. Il en a, mais le monde se complexifie. Puis justement, en tout cas, moi, j'ai l'impression que après le foisonnement puis l'excès qu'on a eu dans The World Is Not Enough, puis tous les autres GoldenEye et tout ça, que La simplification des moyens de James Bond est une réponse à un monde dont la complexité lui échappe. Ouais.
Absolument.
Puis aussi du désenchantement qu'on peut avoir peut-être comme citoyen de façon générale. Mm-hmm. C'est-à-dire que, tu sais, à une certaine époque, on pensait justement que la médecine, on se disait dans les années 60 que la médecine allait tout régler, qu'il n'y aurait plus de guerre, mm-hmm. que tout irait bien, qu'on aurait des voitures volantes, mais finalement, bon...
Même les années 80, on pensait qu'on allait avoir des...
Même des années 80.
Des voitures volantes en 2015.
Oui, puis finalement, c'est ça, on se rend compte que l'intrusion de la technologie dans nos vies pose des problèmes qu'on n'arrive même pas à évaluer.
Oui.
Et je pense que à ce titre-là, pour moi, Q, c'est un bon baromètre. J'aime observer Q et regarder comme dans chacun des films, le considérer comme un baromètre de la présence de la technologie à l'époque où le film a été fait.
Et quand on parle de complexification, Q dans Spectre est prêt à suivre James Bond, mais il est toujours il l'avertit, il dit « Moi, je veux garder ma job, je ne veux pas perdre ma maison, donc je vais t'aider, mais... »
Ça, d'ailleurs, j'ai trouvé que c'était très intéressant, parce que c'est rare, on va souvent avoir des soucis matériels lorsque la Aston Martin est brisée ou qu'on a cassé un joujou de Q quelconque, mais c'était une des rares fois où j'avais l'impression qu'on avait un souci réaliste des affaires plates comme comme payer le loyer et nourrir les chats.
En fait, dans toute la série, on n'a que deux moments où on voit l'appartement de James Bond. Donc, on n'a jamais...
Dans Spectre, on le voit.
Oui,
ce serait dans Spectre, justement, ça brise. C'est l'autre exception qui confirme la règle. Mm-hmm. Mais justement, c'est intéressant justement qu'ils se permettent ça. Mais pourquoi justement ils décident de le faire? Je pense que c'est pour complexifier encore une fois le personnage, puis lui donner aussi un côté plus vulnérable aussi, parce que dans son aspect plus domestique ou en tout cas plus privé, là tout d'un coup, ça veut dire qu'on pénètre le personnage, mais on pénètre aussi toutes ses contradictions aussi, parce que tu le dis, puis je trouve que c'est vrai que j'avais jamais pensé que Q pouvait polariser autant d'enjeux, mais James Bond est un conservateur. Et en même temps, c'est toujours un rebelle aussi.
Mm-hmm.
Hein? Dans Spectre, ça fait pas là aussi, ça fait pas exception. C'est toujours quelqu'un qui vient briser les règles. Mm-hmm. On te donne un permis de tuer. C'est un permis qui a des règles, qui a des consignes très précises.
Oui.
Mais en même temps, on peut te le retirer.
Ouais.
Et t'es un numéro aussi. T'es un numéro, donc on peut te retirer ton numéro.
Ouais.
C'est-à-dire, t'es un numéro. Alors, on peut te remplacer par 008 aussi, parce qu'il y a toujours aussi cette espèce de... C'est aussi une blague, là, mais il y a eu des zéros avant qui ont été éliminés, puis il y a aussi des zéros qui pourraient être remplacés. Mais donc, c'est cette tension-là aussi fait en sorte que le héros réussit à survivre à toutes ces années-là, dans la mesure où, oui, il est le porte-flambeau de la vieille Angleterre ou la vieille Grande-Bretagne, mais puis d'un ordre, l'ordre du gun, puis des armes, puis de on règle nos affaires à coup de pistolet, mais en même temps, il y a juste assez de rébellion pour nous rendre sympathiques, puis que ce soit pas un vieux croulant non plus, on s'entend.
Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, j'ai l'impression dans cette épreuve de la rébellion pour pour James Bond, une glorification, si on veut, une glorification des esprits à contre-courant. C'est comme si on voulait toujours présenter James Bond comme le gars qui, surtout dans License to Kill, je viens de le retrouver, celui où il se rebelle, et dans Spectre, le gars qui va contre les ordres, mais qui réussit à sauver tout le monde avec ses dents. Dans License to Kill, c'est l'autre film justement où Q le suit.
Pour une sorte de justice plus transcendante là, qui nous échappe à tous là, mais
c'est une posture, j'ai l'impression, qui est très à la mode aussi en ce moment, de présenter, mais ça l'a toujours été, mais présenter le rebelle, celui qui a raison, l'esprit libre si on veut, j'avais déjà parlé avec Hélène dans un autre contexte.
Oui, ça fait référence à il y a une question de rockstar là-dedans.
On revient toujours au rockstar.
c'est la phrase de Pascal: quand la loi est injuste, la justice remplace la loi. C'est ça James Bond.
Oui, tout à fait.
Et on doit se terminer là-dessus. Je vous remercie énormément, Jean-Philippe, Simon et Frédéric, de cette émission ce soir. Ça a été vraiment absolument fantastique. Et je mets le thème On Her Majesty's Secret Service Theme Song, parce que c'est une des meilleures de James Bond.
Tout à fait.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, Hélène. This never happened to the other fella.